Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À quelques semaines, à quelques jours des Jeux Olympiques 2024 qui se tiennent en France, je vous propose aujourd'hui de remettre en lumière deux athlètes français qui ont fait la gloire de notre nation, de Tokyo en 1964 à Munich en 1972, un homme et une femme qui font aussi partie des pionniers antillais olympiques et qui ont allié sport et amour puisqu'ils sont mariés depuis 50 ans. Un duo auquel rend hommage leur fille, mon invitée, qui leur consacre ce récit intitulé « Mes parents, ce couple de champions » publié chez Caraïbes Éditions. Bonjour Aurélie Bambuc.
Bonjour Catherine.
Roger Bambuc, sprinteur, seul français, détenteur du record du monde du 100 mètres, et Ghislaine Barnet, spécialiste du saut en hauteur, première martiniquaise sélectionnée pour les JO. Ils sont donc au cœur de votre livre qui revient non seulement sur leur parcours sportif, mais aussi la suite, leurs engagements et reconversions. Un texte qui, dites-vous, vise aussi à les faire sortir de leur réserve, eux qui sont toujours restés discrets. Mais est-ce que c'est une façon aussi peut-être de rappeler aux nouvelles générations combien ils ont compté dans le sport français ?
C'est tout à fait ça, c'est de montrer qui a ouvert la voie aux Marie-Josée Pérec, aux Laura Flessel. Je les cite les deux parce qu'elles ont préfacé pour Marie-Josée Pérec et postfacé mon ouvrage. Oui, il faut rappeler d'où on vient pour savoir où l'on va, et je tenais à rappeler ça aux champions d'outre-mer d'aujourd'hui, parce que j'ai constaté, pour avoir tourné plusieurs documentaires sur cette thématique des champions dans les outre-mer, que ces noms ne parlaient plus aux nouvelles générations. En Guadeloupe, les jeunes athlètes qui s'entraînent aussi au sprint, comme mon père, ne connaissent pas Roger Bambuc, ne savent pas qu'un Guadeloupéen a été le premier à battre un record du monde, le premier Français à battre un record du monde, et le seul encore aujourd'hui. Quant à ma mère, on l'a dit dans l'ombre de mon père, alors elle est dans l'ombre de personne, elle a eu sa propre carrière, mais on la méconnaît. En Martinique, on ne sait pas qu'il y a eu une Martiniquaise qui s'est qualifiée pour les Jeux en 1968. On ne sait pas qu'il y a eu une Martiniquaise qui a été triple championne de France de saut en hauteur, qui a détenu des records de France et qui a ensuite a été enseignante dans le temple des sportifs de haut niveau qu'est l'INSEP. Donc voilà, j'avais envie de rafraîchir les mémoires et d'apprendre aux jeunes générations que voilà, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes comme mes parents, mais comme d'autres aussi, qui les ont précédés et qui ont ouvert la voie.
Alors, puisque l'histoire les a un peu oubliés, on va redécouvrir grâce à vous et avec vous, Aurélie Bambuc, leurs jeunes années où leur vocation s'est révélée. Avec une première particularité, c'est que votre père, Roger Bambuc, est né en Guadeloupe et Ghislaine Barnet, votre mère, en Martinique. Et de fait, ils ne vont se rencontrer que plus tard, sans forcément d'ailleurs se fréquenter sur les lieux de compétition où ils sont. Est-ce qu'il y avait à l'époque une petite rivalité entre les sportifs des deux îles antillaises ?
C'est ça, rivalité qui existe encore aujourd'hui. On dit que ce sont les îles sœurs, mais les îles ennemies aussi dans l'histoire vis-à-vis de la France. Tout simplement, il y a eu un petit privilège de la Martinique par rapport à la Guadeloupe. Mes parents aujourd'hui, voilà, pour mettre fin à une dispute, ils disent de toute façon, toi t'es qu'une Martiniquaise, de toute façon toi t'es qu'un Guadeloupéen. Mais oui, ils ont grandi chacun dans leurs îles en 1945, et ils sont nés tous les deux en 1945. Et lorsqu'ils ont débuté la pratique sportive, l'athlétisme, les deux, ils ont pu se croiser dans des compétitions parce qu'il y avait quand même des matchs Guadeloupe-Martinique. Donc au début des années 60, ils se croisaient sans se connaître dans ces compétitions-là. Ma mère raconte que les Guadeloupéens, de toute façon, c'était toujours des sauvages. Quand les Martiniquais gagnaient, on les chassait à coups de cailloux. Bon, mon père ne confirme pas, donc je ne sais pas qui a raison dans cette histoire, mais voilà. Et puis ils ont pu se croiser également dans des compétitions organisées au niveau Caraïbes, à Trinité Tobago, les Texaco Games, je crois que ça s'appelait. Et donc voilà, c'était des compétitions régionales régionale où la Guadeloupe et la Martinique avaient sa propre délégation. Donc, ils se croisaient lors de ces compétitions. Et puis ensuite, dans les championnats de France, parce que chaque année, il y avait des championnats de France organisés en France, ça leur donnait l'occasion de sortir de leurs îles, de représenter leurs écoles, leurs clubs. Donc, ils venaient avec le maillot Guadeloupe, par exemple, pour mon père, parce qu'il représentait simplement la Ligue de Guadeloupe. Et ils se croisaient aussi dans ces compétitions, mais voilà, il n'y avait pas encore, le couple n'était pas encore formé. Ma mère a percé avant mon père, en fait, elle a réussi à réaliser des performances, à être championne de France avant lui. Donc lui, il la considérait comme une star. C'est ironique de les entendre revenir sur leur début en athlétisme, parce que la star, c'était ma mère, aux yeux de mon père. Parce qu'elle a été titrée avant lui, elle a battu des records avant lui. Donc voilà, mais ils étaient chacun dans leur parcours, en tout cas au début des années 60.
Mais ce qu'ils avaient comme point commun, cela dit, c'est que d'abord, ils ont émergé très tôt, très jeunes. Vous le racontez, votre maman Ghislaine, c'est pendant des cours d'éducation physique à l'école qu'elle découvre ses talents. Elle est toute jeune, elle a 12 ans, elle a une révélation, et elle progresse assez vite. Et en effet, à 16 ans, en 1962, elle traverse l'Atlantique pour aller à Paris. De son côté, votre papa, Roger Bambuc, lui aussi en Guadeloupe, se découvre très jeune un don pour la course à pied. Avec ses copains, il se stimule, il va s'entraîner tout seul et puis assez sérieusement. Et il décolle également dans tous les sens du terme et vit en métropole à l'âge de 17 ans. Et arrivent donc en 1964 les Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, votre père s'y rend, il ne va pas décrocher de finale, si je comprends bien, mais néanmoins, 1965-1966 sont des années déterminantes et cruciales. Il enchaîne les records et les titres de champions européens. Et en 1968, à Sacramento, juste avant donc les Jeux de Mexico, il devient là le premier sprinteur français à détenir le record du monde du 100 mètres. Et aucun autre athlète français ne sera recordman après lui. C'est ça, Aurélie Bambuc ?
C'est exactement ça, la force qu'a réalisé mon père, le fait, comment il est rentré dans la légende en battant ce record du monde dans une course folle, une soirée folle même, ça s'appelait la Night Speed, je crois que ça s'est appelé. C'était des championnats d'athlétisme américains. Il est parti là-bas, en plus, contre la volonté du DTN de l'époque en France, parce qu'on avait besoin de lui pour des championnats d'Europe. Sauf que mon père, à l'époque, c'était le meilleur d'Europe. Il n'avait plus de concurrence. Donc, pour le motiver et puis pour continuer, lui, à progresser, il y a eu cette opportunité d'aller aux États-Unis, à Sacramento, défier les Américains sur leur terrain. Et dans cette compétition, ça se passait en série, quart de finale, demi-finale, finale. Et en fait, à chaque tour, un record du monde a été battu. Ce qui fait qu'il y en a eu peut-être une dizaine qui sont tombés. Mon père, ça s'est arrêté à 10 secondes, mais les courses d'après, c'est tombé sous les 10 secondes. Et c'était la première fois qu'un homme courait sous les 10 secondes. Et quand donc mon père, lui, a détenu ce record du monde, moi, ce qui m'amuse quand j'ai découvert son palmarès, c'est que ce record du monde, il a détenu, oui, mais pendant une heure, parce que la course d'après, tout de suite, on l'a battu. Mais peu importe, pour lui, pour le coup, c'est qu'il est inscrit dans les tableaux du record du monde. Il a marqué son nom comme détenteur du record du monde. Peu importe la durée durant laquelle on détient un record, on est rentré dans l'histoire à partir de ce moment-là. Et pour lui, oui, c'était plus beau qu'une médaille, finalement, de détenir un record du monde.
Et de fait, il est très confiant en 1968 pour les Jeux de Mexico. Il n'obtient qu'une, je dis entre guillemets, qu'une médaille de bronze, ce qui est déjà formidable de monter sur le podium, mais lui, ça ne lui suffit pas. Roger Bambuc est un homme exigeant.
C'est ça, et c'est surtout que c'est une médaille collective. L'athlétisme, c'est un sport individuel, donc on cherche d'abord à se dépasser soi-même, et puis après, on aide les autres à gagner. Donc c'était avec le relais 4 x 100 mètres. Ça venait terminer pour lui sa compétition aux Jeux Olympiques de Mexico. Ils font 3e. Mais il a fait trois finales quand même à Mexico. Il a fait finale du 100 mètres, finaliste du 200 mètres et finaliste du relais 4x100, et sachant qu'il était diminué. Parce que oui, après Sacramento, tout allait bien. Il était comme dans un rêve. Pour lui, son plan se mettait en place. Mexico, c'était pour lui. L'or, c'était pour lui. Et malheureusement, quand il arrive là-bas, il tombe malade. Il a une angine. Il est diminué. Mais malgré ça, il fait quand même trois finales. Et des finales qui sont restées historiques. La finale du 100 mètres, c'était la première finale avec 8 coureurs alignés, 8 coureurs noirs. La finale du 200 mètres, c'est celle durant laquelle on a Tommy Smith et John Carlos qui montent sur le podium, qui lèvent leur poing ganté de noir pour dénoncer les conditions des Noirs américains. Alors moi, je me dis, pour essayer de relativiser, bah, heureusement que tu ne l'as pas gagné finalement cette finale. Tu aurais privé le monde du geste de Tommy Smith finalement. Ou alors il aurait été le troisième sur le podium à la place de l'Australien, je ne sais pas. Peter Norman, qui lui aussi a été solidaire avec les deux athlètes Noirs américains. Mais voilà, oui, effectivement, Mexico, c'était pas satisfaisant pour lui d'un point de vue sportif de ne décrocher qu'une médaille de bronze. Par contre, d'un point de vue humain, ça a été un déclic formidable pour lui parce qu'il a rencontré Tommy Smith et John Carlos. Et lui s'est rendu compte à quel point tout était politique dans la vie et que le sportif devait pas être déconnecté de la vie, justement.
Parallèlement, votre maman, donc Ghislaine Barnet, elle aussi, elle a aligné les records. On l'a dit, 4 records français pour le saut en hauteur. Mais à cause d'une blessure, elle va changer de discipline. Et de fait, en 1972, ils vont se retrouver tous les deux à Munich, aux Jeux Olympiques, mais pas vraiment pour la compétition. Elle est sur le banc des remplaçants. Et lui, il est au micro, c'est ça ? Il s'est un peu reconverti comme journaliste sportif.
Exactement, il est consultant, un métier qui n'existait pas encore à l'époque, consultant pour Europe 1. Il vient faire les commentaires de l'athlétisme. Ma mère, c'est l'originalité aussi dans sa carrière, c'est qu'elle a fait 2 Jeux Olympiques, mais dans 2 disciplines différentes. À Mexico, elle était sauteuse en hauteur. À Munich, elle était sprinteuse. Elle était avec le relais 4x400 mètres, sauf que la fédération n'a pas très bien vu ce changement de discipline. Lui a mis des obstacles en lui demandant à chaque fois de réaliser des chronos. Elle réalisait ses chronos et à chaque fois on lui disait oui, mais il faut encore un chrono pour pouvoir participer au relais. Et à la fin, elle a dit je comprends bien que vous voulez pas de moi dans le relais. Donc on l'a amenée à Munich, mais elle n'était que remplaçante. Et donc elle a découvert ses jeux sur le banc des remplaçantes, effectivement, avec la déception d'avoir respecté les règles et qu'à chaque fois on lui changeait les règles. Et ensuite la déception de ses jeux en particulier de Munich, qui ont été marqués par un drame, l'assassinat d'une partie de la délégation israélienne par des terroristes, et les Jeux qui ont continué.
Et cette articulation entre le sport et la géopolitique, évidemment, est aussi au cœur de votre récit, Aurélie Bambuck, dont on va continuer de parler dans un instant, puisqu'il y a tous ces grands thèmes qui traversent aussi le récit, le dopage, le racisme, la lutte pour les droits civiques, la reconversion. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une pause musicale. Thank you. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui d'Aurélie Bambuc, qui publie chez Caraïbes Éditions « Mes parents, ce couple de champions », pour saluer Roger Bambuc et Ghislaine Barnet, sportifs de très haut niveau qui ont participé à plusieurs Jeux olympiques dans les disciplines de la course et du saut en hauteur. Un homme et une femme qui ont été, on l'a dit, les pionniers aux Antilles à ouvrir la voie de nouvelles générations. Et là, à travers leurs expériences que vous nous racontez, Aurélie Bambuc, on voit aussi les moments forts de leur histoire qui rencontrent la grande histoire. Par exemple, en 1963, votre père Roger a 17 ans et il part faire une compétition sur le continent africain, au Sénégal exactement, à Dakar. Est-ce que ça a été un moment fort, une étape majeure pour lui ?
Pour lui, ça a été un moment fort parce qu'il quittait pour la première fois son île. C'était son premier voyage en dehors de la Guadeloupe. C'était la première fois qu'il arrivait en France, qu'il est allé pour la première fois en Afrique, à Dakar, au Sénégal. Je lui ai demandé, est-ce que tu as eu conscience d'être sur la terre de tes ancêtres ? Et c'est là que j'ai eu une révélation. C'est une histoire dont on ne lui a pas parlé. C'était un tabou pour lui, en fait. Quand il arrive à Dakar, il voit qu'il y a une communauté antillaise, quand même, qui s'était installée là, suite aux indépendances. Il y a eu des Antillais. Alors, il y a eu des Antillais qui étaient côté indépendance à venir voir des intellectuels, surtout venir voir ce que c'était cette terre de Senghor, l'ami d'Aimé Césaire, et d'autres qui étaient plutôt du côté colonie et qui travaillaient pour la colonie française et qui travaillaient là-bas. Mais ce qui faisait qu'en tout cas, il y avait des Antillais à Dakar. Donc, il était intrigué de voir ça, mais il a vu l'île de Gorée. Alors, après, je ne pense pas que l'île de Gorée se visitait comme ça se visite aujourd'hui à l'époque.
Mais il avait le lieu de départ des bateaux qui allaient...
Des bateaux négriers, ouais. Effectivement. Mais du coup, il n'avait pas cette conscience-là, en fait, d'être un Antillais qui revient aux sources. C'était un Antillais qui sort des Antilles pour la première fois, qui fait sa première compétition internationale, qui découvre un autre pays dans lequel il y a des Antillais, une communauté antillaise. Mais ça s'est arrêté là. Mais donc voilà, moi, c'est plutôt mon regard de fille avec son bagage d'aujourd'hui qui a pris conscience que cette compétition, quand même, elle a peut-être semé des choses en lui. Il n'en a pas eu conscience, lui, à cette époque-là, parce qu'il était tout jeune, il n'avait que 19 ans, 17 ans même. Mais voilà, il y avait ce côté, c'est la première fois, quand même, que je découvre un pays comme ça.
C'est intéressant, cette histoire de tabou, entre guillemets, dans la mesure où il me semble que le premier Memorial Act, donc premier musée dédié à la mémoire de l'esclavage colonial, a bien été créé en Guadeloupe.
Absolument.
Donc ça veut dire que ce tabou, finalement, s'est dilué avec les années et qu'aujourd'hui, ça n'en est plus un ?
Aujourd'hui, ça n'en est plus un, mais ça a mis du temps parce que l'inauguration du Memorial Act, c'est 2015. Et pour la petite histoire, ce Memorial Act, il se trouve dans le quartier où a grandi mon père, le quartier d'Arboussier, pas loin de la rue Raspail. Donc c'est marrant ce que l'histoire comme ça arrive à faire entre un jeune de la rue Raspail qui se retrouve sur une terre qui a été victime de l'esclavage colonial en Afrique, au Sénégal, et qu'en plus le nom Bambuc, pareil, quand moi j'ai commencé à faire la généalogie, on a retrouvé qu'il existait un royaume Bambuc. Alors ça s'écrivait pas exactement pareil du côté du Sénégal. Donc il n'a pas eu ces consciences-là à l'époque, mais finalement, tout le menait à cette histoire-là. Et oui, le côté tabou, mais dans la société antillaise de l'époque, on ne se disait pas descendant d'esclaves, on ne se disait pas descendant d'Africains. On a tout fait à l'abolition de l'esclavage pour oublier cette histoire-là, parce que c'était honteux de se dire descendant de victimes, descendant de personnes privées de liberté, descendant de personnes déshumanisées qui ont passé une vie à baisser la tête. Ça ne se disait pas. Moi, quand mon père me raconte ça, je me dis, je réfléchis un instant et je dis, mais moi, j'ai pas de honte, enfin, je ne ressens pas de honte, mais par contre, je ressens un manque, un vide, parce qu'on ne m'a pas parlé de cette histoire, justement.
Et cette question aussi de la couleur de peau qui va perdurer quand même dans les sociétés antillaises. Et votre maman, qui, elle, a vécu dans une famille qui était au sein d'un quartier plutôt blanc en Martinique, a connu ça. Est-ce qu'elle a subi aussi une forme de racisme comme sportive de haut niveau ?
Alors, C'était un racisme, on va dire, le racisme ordinaire, c'est-à-dire qu'on met en avant plus la couleur par rapport à sa valeur. Ma mère, on a douté de son appartenance à l'équipe de France à cause de sa couleur de peau. Elle a participé une fois à une compétition, c'était en Finlande. Les médias s'intéressaient à elle, demandent à l'équipe de France qu'elle puisse venir en interview. Et l'équipe de France dit, les responsables de l'équipe de France disent « Non, non, pas Barnet, elle n'est pas française ». Alors qu'elle portait le maillot de l'équipe de France. Donc voilà, on remet en cause son appartenance nationale à cause de la couleur de peau. Mes parents, quand j'ai retrouvé tous les articles de presse de l'époque, on n'arrête pas de les qualifier en fonction de leur couleur de peau. C'est la gazelle noire, c'est la Carmen noire pour ma mère. Marie-Josée Pérec, on l'a jamais qualifiée, on l'appelle la gazelle, on ne dit pas la gazelle noire. Laura Flessel, c'était la guêpe, c'était pas la guêpe noire. Mon père, c'était la perle noire. J'ai retrouvé une archive de l'époque, il avait 19 ans et justement il était en train d'éclore, d'exploser sur la scène nationale et internationale, et un commentaire d'un journaliste de l'époque qui s'appelait Thierry Roland, qui est resté aussi dans l'histoire du mauvais côté, le qualifie de jeune ayant la nonchalance des gens de sa race. Mais c'était dans la France de l'époque, la France coloniale de l'époque, voyait le noir comme quelque chose d'exotique, donc voilà, il avait la nonchalance de sa race. Ça m'a provoqué à chaque fois, même que je le prononce, une grosse montée d'acidité. Mais voilà, oui, mes parents ont évolué aussi dans cette France-là.
La sphère française, mais la sphère internationale aussi, puisqu'on en arrive à cet autre grand moment que vous avez déjà évoqué, Aurélie Bambuck, en 1968 à Mexico, où là, la revendication des droits civiques s'invite à juste titre aux Jeux Olympiques, avec donc Tommy Smith et John Carlos qui, sur le podium, lèvent leurs poings gantés de noir pour protester au nom des leurs de la discrimination et de la violence que subit le peuple noir aux États-Unis. Je rappelle qu'on est juste après l'assassinat de Martin Luther King. Vos parents étaient là. C'est un moment historique pour eux dont ils vous ont parlé.
Alors, c'est un moment historique dont ils m'ont parlé, sauf qu'ils n'étaient pas dans le stade à ce moment-là, parce que les athlètes ne restaient pas dans le stade au moment des cérémonies. Ils l'ont vu depuis le village olympique, en fait, depuis la salle où il y avait la télévision qui retransmettait. Ma mère a vu ça et a compris tout de suite ce qui était important, surtout qu'elle les connaissait. Elle connaissait John Carlos pour l'avoir croisé justement à une de ses compétitions dans les Caraïbes de Trinidad et Tobago. Donc, mes parents, en tant que noirs français, n'ont pas connu la ségrégation comme l'ont connu les noirs américains, mais ils savaient ce qu'était leur couleur de peau et ils savaient que c'est ce qu'on voyait avant tout, avant de voir leur performance. Donc oui, ils ont compris ce qu'ont fait John Carlos et Tommy Smith, et ils ont été les seuls, vu qu'ils étaient les seuls noirs en équipe de France, à comprendre ce geste et à le soutenir, alors que les autres athlètes disaient non, non, c'est pas la place d'un sportif que de se mêler de politique. Ils auraient pas dû faire ce geste, ils auraient pas dû revendiquer comme ça, se servir vraiment du podium politique des Jeux Olympiques pour revendiquer quelque chose de politique. On était sportif, certes, mais on était humain avant tout.
Pour la petite histoire, ils ont été radiés de l'athlétisme américain et c'est seulement sous le mandat de Barack Obama
qu'ils ont été réhabilités.
En 2016, qu'ils ont pu être réhabilités. Et donc, l'histoire encore dans les Jeux Olympiques en 1972, avec, vous l'évoquiez tout à l'heure également, ces Jeux de Munich frappés par le terrorisme, où dans une spectaculaire prise d'otage, 11 athlètes israéliens sont tués. Et donc, en effet, le sport, c'est la vie et ce n'est pas du tout une bulle à part de la vie. Et on s'en rend compte aujourd'hui, en 2024, avec les sportifs français, et je pense à un footballeur célèbre, qui a déclaré publiquement ne pas vouloir voter pour les extrémistes, puisque nous sommes en grande période électorale. Donc la parole sportive, elle entre aussi dans la sphère citoyenne, politique. Qu'en pensez-vous, Aurélie Bambuck ?
Je suis très contente de voir cette évolution vraiment de la parole des sportifs sur ce champ, dans ce champ politique. Oui, de voir les Kylian Mbappé, de voir le fils Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram s'engager et oui, dire qu'on vit un moment vraiment on est quasiment au bord du chaos, quoi, vraiment alarmant en tout cas de la politique en France, de voir que les sportifs s'engagent Oui, c'est une bonne chose. En 2008, lorsqu'il s'est agi de faire les Jeux Olympiques à Pékin et qu'on dénonçait le régime de Pékin qui était loin d'être démocratique, il y avait eu un appel pour dire « bon, bah alors, est-ce qu'il faut boycotter, etc. » C'est quand même étrange d'aller dans, disputer des Jeux dans un pays qui ne respecte pas la liberté de ses citoyens. Il n'y a rien qui a été fait. Il y avait un pins, un badge, et puis tout de suite, c'était les Jeux, les Jeux, les Jeux. Et là, voilà, 2008, on en était encore là. 2024, bon, ça prend du temps, mais c'est bien que les sportifs s'engagent enfin. Alors, pas de là, oui, effectivement, à boycotter une compétition, parce que les mêmes footballeurs auraient pu aussi dire des choses un peu plus fortes au moment de la Coupe du Monde au Qatar. Mais voilà, c'est, en tout cas, c'est une bonne chose, oui, c'est une bonne évolution que la parole du sportif tente de se faire entendre sur le terrain politique aujourd'hui.
Et donc, on en arrive évidemment à la carrière politique de votre propre père qui, en 1988, est devenu secrétaire d'État chargé des sports dans le gouvernement Rocard pendant le deuxième mandat du président français François Mitterrand. Et de fait, on lui doit une loi, la loi Bambu, contre le dopage en 1989. Ça, c'était vraiment un acte fort.
C'était un acte fort. Il a été convaincu qu'il fallait le mener parce qu'effectivement, il n'existait pas. Il existait une vieille législation qui remontait à Herzog dans les années 60 sur le dopage, mais rien de punitif. Et quand il est arrivé au gouvernement, bah, il a vu s'accumuler les affaires, que ce soit au Tour de France avec l'affaire Delgado, que ce soit à Séoul, les Jeux Olympiques de Séoul avec Ben Johnson, qu'il a admiré pourtant. J'étais là pour le coup, là. Moi j'étais consciente de ça, il nous avait fait venir avec mon frère à ces Jeux Olympiques là, on a vu cette compétition ce 100 mètres remporté par Ben Johnson et derrière convaincu de dopage, il est disqualifié, on lui enlève sa médaille et c'est à Carl Lewis qu'elle revient, donc il a vu tout ça, donc tout ça ça a nourri, oui, sa réflexion, il était temps de légiférer et lui aussi en tant qu'athlète à un moment on lui a proposé des produits peut-être même que c'était à Mexico quand il était malade pour lui permettre de tenir le coup. Donc oui, non, il s'est dit, il est temps de légiférer. Donc oui, ça fait partie de ses fiertés que d'avoir légiféré sur le dopage pour faire en sorte d'avoir un sport propre, tout simplement.
Et puis, en effet, il a travaillé sur l'aménagement du temps scolaire et du temps sportif pour les enfants, là aussi, c'est un point très important. De votre côté, votre maman, si Ghislaine Barnet s'est reconvertie dans l'enseignement sportif, entre autres. Et d'ailleurs, elle a connu des graines de champion, n'est-ce pas ?
Elle a été, oui, professeure pour les sportifs qui voulaient se reconvertir et devenir entraîneur, passer des diplômes comme le brevet d'État. Dans sa promotion, elle a eu Laura Flessel, future ministre, elle aussi, comme mon père. À chaque fois qu'on regarde des compétitions, à chaque fois, elle me dit « un tel, je l'ai eu comme élève, un tel, je l'ai eu comme élève ». Donc, c'est rigolo de voir, oui, le nombre de champions qu'elle a pu voir passer dans ses cours.
Donc vos parents non seulement ont été des champions mais ont inspiré d'autres champions et ont formé des champions. Et qui a repris le relais sportif, la flamme dans la famille ?
Personne. On est tous, on a tous l'état d'esprit de sportif. Hein. On fait tous du sport bien-être, du sport pour nous-mêmes. Mais non, pour l'instant, personne. J'ai bien amené mes enfants à la rue Raspail, là où il y a le secret de se trouve la vitesse Bambuc. Mais mes enfants font du cirque. C'est juste un état d'esprit, après tout, que d'être dans le sport. On ne cherche pas forcément.
Un don, une faculté personnelle, quelque chose. C'est une lumière personnelle, une étincelle.
C'est ça.
Mais c'est ça, l'héritage. Merci beaucoup, Aurélie Bambuc.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce livre qu'il faut vraiment lire parce que d'abord, on y apprend plein de choses passionnantes et puis surtout, on découvre un état d'esprit et c'est remarquable. Mes parents, ce couple de champions, un livre qui est apparu chez Caraïbes Éditions.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.